Alors, je vais présenter aujourd'hui, en fait, je profite de cette occasion pour tester quelque chose de pas encore très bien verrouillé, qui est, en fait, il y a un an, quasiment tout rond, je soutenais mon habilitation à diriger des recherches en sciences politiques, et cette habilitation s'intitulait « Gouvernement des territoires, gouvernement des conduites et renouvellement des formes de domination dans la ville ». Alors, la présentation d'aujourd'hui, elle tente une montée en généralité théorique. Ce sont des travaux qui s'appuient sur beaucoup de matières empiriques, mais que je vais mettre un peu en retrait aujourd'hui. Alors, j'essaierai quand même d'apporter des illustrations, pas que ce soit trop désincarné ou trop austère. Donc, j'ai intitulé cette présentation « Au-delà et en deçà du débat politique ». Les mécanismes de production du consensus en matière de mobilité durable. Alors, je vais partir d'un paradoxe auquel j'ai été confrontée quand l'habilitation à diriger les recherches à Salle Merveilleux et terrifiant qu'elle vous fait revenir rétrospectivement sur 10 ans de travaux de recherche, pourquoi tout ça, et puis, et en même temps d'intéressant parce que cette somme de petites briques s'agence plus ou moins bien et à l'issue de ce travail rétrospectif sur cette somme de petites briques de travaux de recherche, mes travaux empiriques soulevaient un paradoxe. Alors un paradoxe entre deux résultats de recherche. Le premier résultat de recherche, ça c'est la grosse partie empirique que je vais mettre un peu en retrait aujourd'hui qui pourrait être une com à part entière, c'est le fait que les politiques urbaines contemporaines qui relèvent de la mobilité durable et de la qualité urbaine, qui sont déployés dans les villes françaises depuis le début des années 2000, alimentent un modèle très cohérent d'organisation des flux de circulation, mais qui, chemin faisant, c'est une organisation technique des flux de circulation, mais qui se traduit par un tri des usages, certains espaces urbains, et un tri des usagers. Donc, ces politiques urbaines exacerbe la spécialisation spatiale et sociale intra-urbaine. Un premier résultat assez fort, j'ai essayé d'argumenter, de démontrer dans l'HDR. C'est logique renouvelée de mise en ordre dans la ville. Donc ce premier résultat, d'une certaine manière, il alimente ces travaux dont a déjà parlé Vincent, les travaux internationaux qui soulignent cette tendance à la néolibéralisation des politiques urbaines, donc qui font controverse à l'échelle internationale, qui font notamment controverse entre les tenants de la gouvernance urbaine qui disent « ben non, c'est plus compliqué que ça et en France, on n'en est pas là ». Donc, moi, mes résultats empiriques tendent plutôt à conforter ces thèses radicales et marxistes. Mais dans le même temps, un second résultat de recherche tout aussi fort, c'est que je fais le constat aussi, en ayant observé des démarches de planification urbaine, en ayant observé la mise en œuvre de ces politiques publiques, d'un relatif chaos des intérêts dans la ville pluraliste, avec le constat de les acteurs n'ont pas forcément des intérêts figés, définis, une fois pour toutes. Ces intérêts, c'est des logiques d'apprentissage et de socialisation dans les arènes de la gouvernance urbaine, sont assez labiles, sont assez floues, vont évoluer. Constate la complexité des agencements et des recompositions de coalitions. Donc ça, c'est des travaux notamment que j'ai conduits sur le fonctionnement des gouvernements intercommunaux et du partage des recettes, en fait, des partages financiers au sein des gouvernements intercommunaux. Donc, constate un relatif pluralisme des scènes d'action étudiées. Et là encore, si on se tourne vers ces travaux les plus radicaux, ont tendance à nous dire, bon, je caricature, je force un peu le trait, mais voilà, qu'on aurait en ville des coalitions revanchistes, pour prendre le terme de Smith, qui seraient les grands responsables de cette néolibéralisation des politiques urbaines. Alors, à la fois, je fais le constat que ces politiques urbaines exacerbent la spécialisation sociale et spatiale, en même temps, impossible de repérer de coalitions revanchistes. Donc, second résultat, lui, conforte plutôt les travaux qui relèvent, pour aller là encore un peu vite, du champ de la gouvernance urbaine, et qui nous disent, ben, ces politiques urbaines, tantôt, c'est typiquement la thèse de Patrick Le Gallès, tantôt elles sont au service d'un social, un welfare mixte, tantôt elles sont au service de logiques de marché, mais on n'est pas dans un modèle de néolibéralisation univoque des politiques urbaines. Donc deux résultats un peu dissonants, c'est-à-dire qui théoriquement posent un problème. Alors, j'ai essayé de... Je vous dis que ce que je fais aujourd'hui est un peu, n'est pas encore bien verrouillé. Hein. Il y a certainement trop de briques et peut-être pas encore bien mises en ordre, mais je compte sur Gilles pour la discussion. Finalement, par quel mécanisme un ordre urbain très cohérent, spatialement et socialement sélectif, peut-il advenir alors même qu'en amont, aucune coalition, et même tout au long du processus, aucune coalition d'intérêts revanchistes sans vraiment s'activer pour l'opérationnaliser. Il se passe quoi qui transmute le chaos en ordre? Grande question. Alors, trop grande question probablement. On retombe sur qui gouverne, j'avais envie de dire, pour paraphraser, c'était Fabre qui avait dit ça, qui gouverne quand personne ne gouverne ostensiblement? Alors, j'ai fait un pas de côté du point de vue des cartes d'analyse. En revisitant Foucault et Bourdieu. Foucault nous dit finalement, il est un petit peu illusoire de chercher, de focaliser les travaux, notamment les travaux, en l'occurrence de sciences politiques, qui sont très centrés sur les acteurs. Si on connaît bien les jeux d'acteurs, alors on pourra renseigner le sens de l'action publique. Alors j'ai fait un pas de côté par rapport à cette posture qui est plutôt une posture classique en sciences politiques, en suivant cette intuition caldienne, d'un pouvoir partout diffus. Et puis j'ai emprunté à Bourdieu pareil, avec une intuition, et j'aime bien la métaphore des champs de force physiques, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai observé, c'est plutôt quelque chose, un modèle gravitationnel des intérêts. Dans un modèle mécanique, on peut s'attirer ou se répulser. Et dans un modèle gravitationnel, on a l'impression que les intérêts, les forces en présence, vont s'agréger inéluctablement autour d'un noyau dur. Et donc ça a fait écho à la notion de champ chez Bourdieu. Et j'ai trouvé une petite citation là dans la parution récente de Sur l'État. Il nous dit ces agents sociaux ont en commun des structures logiques. S'ils sont correctement socialisés, sont comme des monades de l'Église. Ils n'ont pas besoin de communiquer, de collaborer pour être accordés. Donc je me suis imprégnée de ces cas d'analyse pour revisiter les travaux en essayant de faire un pas de côté par rapport aux travaux qui mettent les acteurs au centre de l'analyse des politiques publiques. Et puis, donc, j'ai formulé quelques hypothèses que cette mise en ordre des politiques urbaines advient par, j'utilisais le terme d'alignement, alignement consenti des acteurs sur les présentations dominantes et diffuses. On a affaire à une sorte de modèle gravitationnel des intérêts, avec des mécanismes d'agrégation et d'alignement d'intérêts, d'acteurs portant des intérêts initialement pluriels, une progressive congruence, selon deux mécanismes, c'est sur ça que la communication aujourd'hui va porter. Un alignement que j'ai qualifié suprapolitique, c'est au-delà du politique, sur le cadrage naturalisé des nobles causes à traiter, les nobles causes du développement durable. Et puis, un deuxième mécanisme, j'ai qualifié d'alignement infra-politique, en deçà du politique, par le truchement des instruments techniques, le tramway, le pédibus, les vélos en libre-service, la route apaisée, j'en passe des meilleurs, ces instruments techniques vertueux, magiques, sur lesquels les intérêts s'accordent au moment de la mise en œuvre de l'action. Quelques mots donc sur mes objets de recherche, j'ai déjà dit que je vais mettre un petit peu en retrait aujourd'hui, sont les politiques urbaines de transport et de déplacement en faveur de la mobilité durable. Je me suis intéressée à la fois au cadrage, en travaillant, en essayant de repérer les discours et les chaînes argumentaires justement de légitimation et de justification de cette politique publique. Je me suis intéressée aussi très finement à l'étape de mise en œuvre, en faisant un travail de spatialisation et de cartographie des opérations, des projets, de tous les produits de ces politiques urbaines. Et puis, un dernier volet d'un tentative d'objectivation des effets de ces politiques publiques. Et là, dans la mesure où le travail de terrain nécessite un certain recul temporel, c'est aussi un travail qui s'appuie beaucoup sur des états de la littérature dans des disciplines voisines qui ont une dimension évaluative, socio-économie des transports notamment, mais pas seulement, aménagement urbanisme. Du point de vue des méthodes, quelques mots. J'ai beaucoup travaillé sur les documents de planification urbaine, en l'occurrence les plans de dépassement urbain, et puis toute la communication institutionnelle associée à ces documents de planification. Je vais vous montrer. Donc, je travaillais sur un échantillon, j'ai pris les villes de plus de 200 000 habitants au sens INSEE, donc je les ai tous pris. Voilà les couvertures, les maquettes, l'univers dans lequel on baigne quand on s'intéresse à ces documents de planification. Donc, je les ai tous pris systématiquement. J'ai regardé comment ils étaient construits, ce qu'ils disaient. Vous voyez que l'iconographie est aussi finalement un matériau assez intéressant. Parallèlement, trois terrains ont été étudiés de façon approfondie. Les communautés d'Agglomération d'Aix-en-Provence, de Grenoble et d'Aubagne. Ça, c'était dans le milieu des années, enfin, deuxième partie des années 2000. Après la découverte, l'analyse des documents de planification, confrontation avec les acteurs publics qui fabriquent, qui font ces politiques urbaines. Un petit travail de fourmi sur l'analyse de la mise en œuvre spatialisée dans ces trois agglomérations. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui peut paraître un peu abscon. Dans ces documents de planification, il n'y en a pas forcément qu'un. Il y a le PDU, mais il y a un certain nombre d'autres documents qui plus ou moins en lien avec le PDU. Et puis, les projets sont souvent présentés par mode de déplacement, très souvent par mode de déplacement. Et ce que j'ai fait, c'est que, donc vous avez toute la ligne du bas, c'est un travail sur carte qui cartographie le réseau existant. Voilà. Là, on est à Aubagne. Voilà comment, à trois échelles, l'échelle du centre-ville, l'échelle Agglo, l'échelle Aubagne dans l'aire urbaine. Voilà la position d'Aubagne, la structuration des réseaux d'Aubagne. Et puis, c'est la partie haute des cartes, c'est ce vers quoi le modèle idéal projeté, c'est-à-dire quand on prend la somme des projets et qu'on a un deuxième pôle d'échange, un parking, la requalification du cours Intel, les prendre un par un et tous les mettre sur la même carte. C'est une carte qui n'est jamais produite par les communautés d'agglo ou les autorités organisatrices des transports urbains. Pour justement s'apercevoir que finalement, dans toutes les villes, il y a une espèce de modèle idéal projeté, ce vers quoi les villes souhaitent tendre, finalement assez homogène, assez générique. Et puis, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, un état de la littérature sur l'évaluation des outils et des instruments techniques en allant fureter, investir quelques disciplines voisines de la science politique, aménagement urbanisme, sociologie, économie des transports notamment, pour alimenter la discussion sur les effets sociaux et spatiaux de ces politiques publiques. Alors là, je vais peut-être le dire après. Je le dis tout de suite, c'est la page de pub. Ce travail qui essaie de reconstruire tous les chaînages argumentaires entre les énoncés de politique publique et les solutions a donné lieu en fin d'année à une publication avec deux collègues, un ouvrage paru au PUR, fin 2013, Nouvelles idéologies urbaines, critique de la ville verte et sûre, En fait, on a Runu, Tramway, Réseau Vert, on est parti des solutions, des objets à la mode, des objets magiques, des objets vertueux du moment, et on a déconstruit, on a mis en perspective ces instruments techniques un peu magiques, en mettant à l'épreuve les chaînages argumentaires qui viennent justifier, légitimer l'usage de ces outils et instruments d'action publique. Page de pub terminée. Alors, premier, j'en viens à mes deux mécanismes. Premier moment, au-delà du politique, la question de la naturalisation et de la dépolitisation des enjeux. Premier constat assez net, en prenant les slogans un peu croisés quand on s'intéresse à ces politiques publiques, on nous promet de nous faire la ville plus belle. Ce vous ou ce nous collectif, je me suis intéressée, on vous fait la ville plus belle, mais qui est ce vous? Alors on peut travailler de plusieurs façons. L'iconographie de ces documents nous représente un certain nombre d'usagers. C'est assez intéressant de voir le profil de cycliste attendu, qui n'est pas un gars avec une casquette qui sort d'une usine comme pouvait être la représentation dominante du cycliste il y a encore pas si longtemps, mais c'est plutôt un homme urbain, visiblement cadre avec un cartable ou une mallette. Essayer de qualifier ces usagers et la manière dont les catégories cibles de ces politiques publiques sont construites. Assez nettement, ce qui permet de construire les catégories des groupes, à la fois des groupes d'intérêt qui vont être présents dans ces démarches de planification des déplacements urbains. Les PDU donnent lieu à enquête publique obligatoire, donc ces groupes d'intérêt sont représentés au moment de ce... C'est pour ça que je dis démarche, ce sont en général des processus en cours. Donc ce sont les modes de déplacement. Il y a les cyclistes, il y aura les groupes d'intérêt des cyclistes, les piétons, les modes doux, versus, alors eux, ce sont les bons usagers, les bons citadins, vertueux, éco-responsables, versus les automobilistes, ceux qui s'entêtent à utiliser des modes de déplacement pour eux. Un second mode d'organisation des groupes et des cibles de l'action, c'est le motif de leur présence en ville. Assez nettement, on distingue
C'est ce que je craignais, c'est un truc automatique.
Un truc automatique, ça dure longtemps?
Je sais pas. C'est l'ordinateur du labo et apparemment il y a je crois que c'est Windows qui a un truc automatique et c'est pour ça que je voulais le voir tout à l'heure, mais apparemment il n'apparaissait pas.
Non, j'ai une version passive. Et j'avais quelques illustrations, donc ça serait mieux.
Non, mais ça va revenir de toute façon, mais il ne faut pas éteindre par contre. Si on éteint, ça.
Donc, le motif de votre présence en ville, êtes-vous un touriste, un chaland, un visiteur, versus, alors ça c'est plutôt des cibles qu'on essaie de flatter et d'attirer, on fait du stationnement orienté visiteur avec une signalétique pour attirer réguler les flux des visiteurs ou des touristes ou des chalands, ou versus. Êtes-vous un abetteur ou un pendulaire? Dans quel cas, on va plutôt chercher à vous arrêter plus en amont de la ville, dans des parkings relais, on va vous inciter à faire du covoiturage, à utiliser des parkings relais périphériques. Donc selon vous n'êtes pas ciblé ou traité de la même façon, selon le motif de votre présence en ville. Vous venez dépenser des sous et visiter les musées et fréquenter les commerces, vous aurez du parking souterrain à proximité de ces aménités urbaines. Si vous êtes un habitant ou un pendulaire, vous serez repoussé plus loin et incité à utiliser les parcs relais, par exemple. Et le troisième mode d'organisation de ces cibles, c'est votre statut résidentiel. C'est-à-dire que les riverains, les résidents, ceux qui sont là, qui habitent cette ville, versus le transiteur. le méchant, mauvais, périurbain, qui n'a pas réfléchi quand il a fait son choix résidentiel, qui a mal anticipé ses temps de transport. Donc ce travail de catégorisation, il est associé à des représentations plus ou moins positives ou plus ou moins négatives des usages et des usagers que nous sommes. Alors, on retrouve tous ces groupes dans les démarches de planification qui vont être présentées. Les résidents dans les comités de quartier, les cyclistes dans les assos pour vélo, etc. Mais le constat, ce qui est net, c'est que tout ce mode d'organisation et de catégorisation des cibles exclut complètement les variables sociales. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas que vous soyez riche ou que vous travaillez à temps plein, à temps partiel, en horaire décalé. Alors on en parle un tout petit peu quand il est question de tarification sociale et déplacement, et c'est la seule petite fenêtre où ces enjeux sont légèrement palpables. Mais toutes ces variables sociales ne pèsent pas dans la catégorisation des cibles. C'est pour ça que je parle d'une construction post-classiste des groupes et des cibles représentés dans ce champ d'action publique. Le deuxième mécanisme qui s'enchaîne derrière cette construction post-classiste des cibles, c'est des politiques publiques très fortement légitimée avec la mobilisation d'une sémantique des nobles causes. Les nobles causes de cette planification urbaine et cette évidente grandeur de la durabilité, de la mobilité durable pour votre santé à tous, la sécurité des usagers vulnérables dans un environnement préservé pour vos enfants. Voilà, c'est une sémantique qui couple génération future, santé, sécurité, et donc un cadrage qui étouffe le débat et qui rend quasiment intouchable, là j'en reviens au DICO, la robustesse des chaînages argumentaires entre les énoncés et les solutions. Petit exemple, le vélo en ville, difficile d'être contre la promotion de la pratique du vélo en ville. Cela dit, est-ce qu'on peut être favorable à la pratique du vélo en ville, mais être critique par rapport aux dispositifs et aux modèles économiques qui sous-tendent les vélos en libre-service? Alors l'hiver à Paris, d'abord, était très très perplexe par rapport à ce modèle de vélo en libre-service. Et puis, ils ont dit, oui, mais si on vote contre, dans la municipalité de Hanoé, ce sera mal compris, ce sera compris, on est contre la pratique du vélo en ville. Donc ils finissent par s'aligner alors qu'initialement, ces instruments peuvent faire débat. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est trop compliqué d'être contre, d'être favorable à plus de piétons tués sur les réseaux, plus de pollution dans les villes. Bon. Donc finalement, dans la mesure où les chaînes argumentaires entre les énoncés et les solutions sont difficilement attaquables, assez logiquement, l'espèce de mécanisme, le temps d'après, c'est que la réussite ou l'échec de ces politiques publiques, elle est renvoyée à la responsabilité des bons ou des mauvais comportements individuels des citadins. Donc un fort accent mis sur la responsabilité individuelle, et là j'avais une petite illustration. Donc voilà ce qu'on peut trouver qui illustre bien le fait que les individus sont considérés comme à la fois la cause des problèmes en même temps que ces individus détiennent les clés pour résoudre ces problèmes. Et en conséquence, ces politiques publiques sont aussi marquées par un fort accent mis sur la pédagogie. Il faut éduquer et... Alors, des kits pédagogiques pour s'éco-transporter, pour devenir des citoyens éco-responsables. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très très fort qu'on rencontre dans très très nombreuses démarches. Et donc, construction post-classique des cibles, mise en avant de la responsabilité individuelle et mobilisation du registre des nobles causes et de la grandeur morale. Et puis, étape suivante, finalement, je prends mon exemple du stationnement, j'ai déjà un tout petit peu évoqué, ce tri ce tri technique des flux va se traduire par un tri des usagers. Alors, là, c'est ce que j'ai illustré tout à l'heure. Vous avez sur la partie gauche les instruments d'action publique qui sont mobilisés pour capter les navetteurs, les pendulaires, les périphériques et les maintenir hors de la ville de l'hypercentre. Puis sur la partie droite, vous avez les outils qui sont mobilisés dans les parties les plus centrales des villes, où, voilà, là on est à Marseille, dans le schéma du bas, principe d'organisation du stationnement des visiteurs. Le message est clair, avec parking en ouvrage, parking souterrain de qualité, avec un travail sur les embouteillages sonores, sur les signalétiques. Donc on cherche finalement, au nom de... Si l'argument c'est limiter la place de l'automobile en ville, en fait on voit que la cible c'est pas l'automobile, mais c'est certains types d'usages et d'usagers automobiles qu'on cherche à éloigner des cœurs de ville, en même temps qu'on continue de chercher à capter d'autres types d'usagers et d'usages automobiles dans les cœurs de ville. Donc, pour conclure sur ce premier mécanisme, au-delà du politique, cette durabilité, elle agit comme un puissant mot d'ordre autour duquel vont venir s'aligner des intérêts pluriels. On assiste à ce que je qualifiais peut-être encore un peu maladroitement, d'alignements suprapolitiques qui échappent au débat partisan et qui échappent au débat public contradictoire, avec assez nettement des enjeux sociaux qui sont dissous. Deuxième et dernier temps de la présentation, deuxième mécanisme en deçà du politique, l'alignement sur les instruments magiques de la mobilité durable. Alors le constat, là encore, c'est pas un constat qui est neuf. Jean-Marc Hoffner, il y a plus de 10 ans de cela, faisait déjà le constat que ces politiques de mobilité, de transport et de déplacement étaient fortement structurées par et pour des objets techniques clairs. C'est toujours vrai, c'est toujours peut-être même encore plus fort, le consensus sur les objets techniques à déployer en tête de gondole avec ses stars, le tramway, les zones de circulation apaisées, le vélo en libre-service, la semi-piétonisation, je ne les cite pas tous. Et là aussi, alors là j'ai fait un schéma dont je ne suis pas forcément très fière, je ne sais pas si je vais le projeter. Mais pour prendre l'exemple, allez, mon schéma pas beau, avec l'exemple du tramway, pour plein de raisons différentes, en fait tout le monde va s'accorder, oui il faut faire un tramway, c'est bien un tramway, pour plein de raisons différentes. Alors on a des enjeux environnementaux, il faut le tramway parce que le raisonnement est suivant. Pour réduire l'usage de l'automobile, il faut développer le transport collectif pour essayer d'obtenir du report modal, donc pour gratter de la part de marché à l'automobile. Donc les enjeux environnementaux sont favorables au développement des TC, donc favorables au tramway. J'ai mis dans une autre bulle les enjeux économiques, avec l'enjeu de la rentabilité des transports publics, qui implique de desservir des espaces assez denses. Donc, voilà, on va faire le tramway et on va travailler les tracés, on n'ira pas forcément très loin. Le tramway est un objet qui peut s'insérer en site propre dans les espaces denses des villes. Là, les enjeux esthétiques qui sont aussi, qui arrivent à converger autour de cet objet. Et là, on sort du seul enjeu fonctionnel des transports. Avec le tramway, on va faire de la requalification urbaine, on va travailler des ailes des rames, on va travailler l'inscription paysagère de cet objet. Et en même temps, c'est très... Enfin, là, je vais penser à Montpellier, on va travailler aussi sur l'identité, sur l'image de la ville, le tramway comme symbole de ce marketing territorial. Puis, dans une dernière bulle, des enjeux financiers. Voilà, on a historiquement notre réseau de transport public qui s'est construit en étoile, de sentier de dépendance. Et donc, ce tramway, on va le concevoir de façon à compléter, à se calquer sur ce réseau structuré en étoile. Et puis, on redéploiera les lignes de bus existantes autour de cet objet de transport public, ces axes lourds de transport public. Et ce qui est intéressant, après, c'est de s'intéresser, donc, dans la mise en œuvre fine, à la distribution spatiale de ces instruments. Donc, c'est, je renvoie aux cartes que j'ai projetées en introduction. Incontestablement, ces instruments de la mobilité durable, ils sont concentrés dans les villes historiques, dans les centres patrimoniaux, dans je dis ce qui fait l'avantage comparatif de la ville européenne, d'une certaine manière, sont pittoresques. On va protéger ces hauts lieux de la ville, on va les délester de l'automobile pour être une ville où il fait bon vivre. Je vous renvoie là au palmarès, on peut trouver des palmarès urbains des villes où il fait bon vivre. Mais les flux automobiles ne sont pas freinés, ils sont juste enfouis ou ils sont détournés ou ils sont canalisés sur des infrastructures de contournement pour protéger ces quartiers-là. Donc, on parle de réduction de la place de l'automobile en ville, mais en fait, c'est une réduction sur certains micro-espaces urbains qu'on protège, qui ont droit, qui méritent la qualité urbaine, et un délestage vers d'autres espaces avec des infrastructures de contournement. Donc, à travers ce modèle technique, cette agrégation projet technique, le résultat, c'est un traitement sélectif, une gestion graduée entre surface et souterrain d'une part, entre centre et périphérie d'autre part, qui creuse le fossé entre l'argent public investi, on peut connaître le prix au mètre carré pour les espaces publics stratégiques versus le prix au mètre carré investi dans les espaces publics ordinaires. Parce qu'il faut être une ville où il fait bon vivre, mais dans une métropole des flux qui cherche toujours à capter les nœuds de la grande vitesse et à lutter la congestion. Alors j'ai fait un dernier petit schéma. Ici, on est à Marseille, donc j'ai bien ma gradation entre centre et périphérie et puis ma gradation entre surface et souterrain. Donc Marseille, c'est intéressant parce que comme c'est une ville qui est, entre guillemets, plein guillemets, en retard, on a pu observer dans les années qui viennent de s'écouler des choses qui se sont au milieu peut-être une décennie plus tôt dans d'autres villes françaises. Alors on va partir en haut à gauche, requalification du vieux port pour en faire une des plus vastes piétonnes d'Europe, une calanque urbaine, une vitrine, avec le Mucem tout au bout hors champ, l'ombrière de Foster, mobilise grands concours architecturaux internationaux. Requalification du vieux port avec l'argument de la mobilité durable, rendre ce joyau aux piétons, au mode doux, en surface. Et puis si on descend, ben, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, cette requalification en surface du Vieux-Port se traduit par une extension en souterrain de l'offre du stationnement. Donc on ne cherche pas à réduire l'usage de l'automobile, on cherche à l'enfuir. Et il faut bien que les croisiéristes, les utilisateurs du Mucem puissent arriver en ville jusqu'à ces hauts lieux. Donc, parc en ouvrage, et puis si on fait... J'ai réalisé une visite urbaine avec des étudiants, on s'est régalé. On peut trouver un point de vue au bout du vieux port si on se met.
Tu veux le pointeur
ou... En faisant un quart de tour, on a cette vue magnifique sur cette esplanade qualifiée, minérale, piétonnisée. Et si on fait un quart de tour, on voit aussi les nouveaux tunnels qui ont été inaugurés ces dernières années pour que l'automobile continue. L'automobile continue d'être présente, mais en souterrain, enterré, enfoui un peu autour de nous. Ça, c'est la logique des projets centre-ville. Et puis, si on change d'échelle et qu'on s'intéresse à la ville et à la ville, mais comme plein d'autres villes, bouclement des rocades, amélioration des échangeurs, nouveau contournement autoroutier. Alors, sauf que voilà, la L2 est un vieux projet. J'avais retrouvé les documents institutionnels qui parlaient de la L2 dans les années 70. C'était très très routier. On avait un profil en coupe, en travers. Ça avait dû être fait par l'ingénieur Lépont. Puis aujourd'hui, cette L2, elle est toujours en chantier, sauf que la plaquette a été verdie. Et on nous dit que ce contournement autoroutier est une formidable opportunité de requalification urbaine. L'argument étant, si on veut protéger nos cœurs de vie de l'automobile, ben il faut bien des rocades pour accueillir l'automobile délestée. Et donc, voilà, pour conclure sur ce deuxième volet, je veux dire, en deçà du politique, ce modèle n'est jamais explicité. Je vous dis, tout est découpé mode par mode. On n'a jamais de carte qui nous montre, qui nous met tous les petits projets et qui pourraient. Alors Grenoble l'a fait. Et Grenoble, en ayant explicité ce modèle d'organisation, s'est heurté aux protestations des associations écologistes. Voilà, donc le modèle, il est. Bon, pour conclure, parce que j'ai déjà été assez longue avec tous les internets de technique, sur cette question vraiment d'aujourd'hui, sur la légitimation des politiques urbaines de développement durable. Donc, oui, quand on observe la construction, le déploiement, la mise en œuvre de ces politiques urbaines, à toutes les étapes, on observe une mobilisation effective de groupes d'intérêt nombreux, pluriels, dans ces démarches. Mais l'espace du débat public contradictoire apparaît comme étouffé, comme pris en étau entre, d'une part, par en haut, la grandeur morale des enjeux à traiter, et par en bas, les vertus magiques associées aux instruments et aux outils de la mobilité durable. Donc l'espace des possibles est considérablement réduit, et tout se passe finalement, pour en revenir à une conclusion plus générale, comme si finalement l'extension des interactions entre acteurs et entre intérêts dans la gouvernance urbaine pluraliste produisait toujours plus d'attractions réciproques autour de représentations dominantes de la bonne urbanité, à la fois bonne urbanité des espaces, mais aussi, d'avoir des comportements urbains, urbanité des comportements individuels. Et pour moi, voilà, donc, il resterait pour les années à venir à s'intéresser au non-aligné, parce qu'il y en a quand même un petit peu, mais les prises de la contestation sont assez fragiles dans ce contexte-là. Donc ces non-alignés sont pas si visibles que ça, ou sont vite exclus des démarches. Voilà, je vous remercie pour votre attention.